il est d'orientation plutôt orthodoxe, même si ça ne se marque pas très spécialement, et sans être trop lourd, trop compliqué, il y a un peu de notes, donc c'est facilement, il est pénétrant et il sait bien disposer les choses pédagogiquement. Alors je ne le suis pas de manière étroite, mais quand même je le suis à propos des divisions de périodes et des termes employés. On peut isoler le premier temps dans l'histoire de la théologie en parlant d'âge de l'apologétique. En gros, on va jusqu'à Tertullien, c'est-à-dire jusqu'au début du 3e siècle après Jésus. Cette première période, il y a un peu plus d'un siècle. Le temps des apôtres, bon, ça se termine après le 1er siècle, vous avez en fait les pères dits apostoliques. Ce sont des théologiens, ce sont des pasteurs. Nous allons quand même y revenir. Puis viennent ensuite les premiers docteurs systématiques qui écrivent des apologies, c'est-à-dire des discours de défense et d'illustration du christianisme, à l'usage du public païen, principalement. Ils font un effort de système, de clarification, de définition, et ainsi on peut considérer que ce sont les premiers théologiens. Et à la fin de cette période, alors la polémique va interférer avec l'apologétique, de toute façon ne sont pas très éloignées les unes des autres, mais je pense qu'on peut dire que la première période, c'est la période de l'apologétique. L'apologétique serait la mère de la théologie systématique. Personne n'a choqué sur ce terme. Hein. S'il faut l'expliquer davantage, je peux bien le faire encore, mais apologétique. Puis ensuite, alors, pour le reste de l'Antiquité, pour le temps des pères de l'Église, comme on l'appelle, je choisis le terme de polémique, l'âge de la polémique. Qui va, on peut aller jusqu'au 7e siècle, surtout en Orient. Le Moyen Âge commence en Occident, mais disons qu'on ne parlera pas de la même façon pour l'Orient du bassin méditerranéen. Ce qui occupe le devant de la scène pendant ces siècles, donc, essentiellement 3e, 4e, 5e siècle, siècles d'or, les siècles principaux, donc ce qui occupe le devant de la scène, ce sont des luttes à l'intérieur de l'Église à propos de la divinité de Jésus-Christ, du rapport avec le Père et l'Esprit, donc question trinitaire, et du rapport avec la nature humaine de Jésus-Christ, christologie, sont ces trois. Vous avez de grandes disputes, de nombreux ouvrages, et vous avez des conciles, des assemblées dites écuméniques au sens ancien des termes, réunissant des évêques de toute la terre habitée, qui ont tranché sur ces questions. Alors, comme nous allons le voir, il y a eu des différences assez marquées de sensibilité, d'intérêt entre l'Orient et l'Occident. Ce que je vous dis est surtout valable pour l'Orient, ce que je viens de juste résumer. Puis la troisième grande période, après un creux, parce qu'il est inévitable de dire qu'il y a quand même un creux pendant la première partie du Moyen-Âge, les invasions barbares ont beaucoup détruit, qui a subsisté du travail intellectuel, s'est réfugié dans des couvents, et on a plutôt là réservé des bribes de l'héritage que continuer à produire de manière vraiment marquée. Donc après un creux de quelques siècles plus sombres, malgré la petite renaissance carolingienne, surtout au temps de Charlemagne, et de son théologien, ça fait alcool, nous dire bon. Malgré cela, donc, il y a un creux, et puis, il y a la naissance et l'essor, puis finalement, la sclérose, la dissociation de la scolastique, c'est l'âge de la scolastique. Le mot scolastique vient du mot école. Et c'est un terme auquel je n'ajoute pas de nuances péjoratives. En ce qui me concerne, je pense que le mot de scolastique correspond à des stéréotypes dans l'esprit de beaucoup et de protestants en particulier, qui ne méritent pas que la scolastique c'est un effort de précision et de rigueur qui associe l'étude de la théologie au milieu scolaire, mais c'est ce que nous faisons. Hein. Et il ne signifie nullement aridité, que ce soit aridité, concentration sur des questions dites byzantines, des questions abstraites et d'intérêt propre extrêmement limité, fameuse question sur le nombre d'anges qui peuvent se tenir sur une tête d'épingle, sont des excroissances qui conduisent à une vision tout à fait déformée. Vraiment, c'est terrible. La scolastique, c'est un grand effort parmi les meilleurs esprits de leur temps. Ceux qui étaient les plus doués dans ce système de chrétienté, c'était la promotion, c'était la théologie qui permettait d'aller le plus loin, de montrer tous ses dons. C'est vraiment les esprits les plus géniaux, les plus talentueux de leur temps. Concentrons tous leurs efforts sur la compréhension et la juste expression du donné révélé et de la tradition qu'il véhiculait. Donc vraiment un travail très soigneux et associé souvent à une piété fervente. Les grands scolastiques étaient en même temps des mystiques. Thomas d'Aquin et Bonaventure, son collègue, en quelque sorte, rival franciscain, c'est tous les deux d'ardents mystiques, avec vision, extase, etc. C'est en ce sens même que j'emploie l'expression. Je le signale pour que vous ne vous mépreniez pas sur l'environnement spirituel et le style de la théologie scolastique. Cela est moins vrai sans doute pour la scolastique finissante du bas Moyen-Âge, qui parfois la base scolastique du 14e et du 15e siècle, tout. Là, une certaine dissociation s'est produite, et des caractères d'abstraction, d'isolement universitaire sont davantage dégagés. Ces caractères-là sont devenus visibles. Mais ce n'est pas vrai de l'ensemble de la scolastique. Donc, le temps, des cathédrales intellectuelles que sont les grandes sommes des théologiens scolastiques, une troisième période bien typée, je crois que pas la manquer. Quatrième période, celle des réformateurs et de leurs successeurs proches, jusqu'au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle. Alors, la précédente, le début de la scolastique se situe un peu après l'an 1000, au XIe siècle, et on peut aller jusqu'au XVe facilement. Après, c'est la Renaissance, c'est la Réforme. En un sens, la scolastique a continué, car ces mouvements si puissants qu'ont été la Renaissance et la Réforme n'ont pas empêché une tradition de se poursuivre au 16e, 17e, 20e, jusqu'au 20e siècle de scolastique. Mais disons qu'il n'y avait plus le même prestige intellectuel et le même rôle culturel. Alors, âge des réformateurs, de leurs héritiers, de la réforme protestante et anglicane et de sa consolidation, 16e, 17e, j'emploie l'expression que Boniface propose l'âge de la symbolique. Elle peut vous surprendre. Elle m'a surpris, en tout cas, quand je l'ai lu la première fois. Oui, je m'en étais pas. C'est longtemps. Et c'est à la réflexion que je me suis dit qu'elle était appropriée. Il ne s'agit pas, bien sûr, du symbole au sens le plus courant du terme. Il ne s'agit pas de la mentalité qui voit des signes, des symboles partout dans la réalité humaine, le symbole de l'invisible, etc. On a pu dire, par exemple, que la mentalité prédominante, la haute scolastique et la mentalité symbolique. Ce n'est pas dans ce sens-là plutôt que le terme est pris, mais selon qu'on appelle les confessions de foi, les expressions de la vérité dogmatique principale que les églises ont érigées en norme, des symboles. On parle des symboles de la foi à leur propos, pour les credos de l'Antiquité, pour les confessions de foi élaborées au temps de la Réforme. Et par la suite, jusqu'au XVIIe siècle aussi, enfin, encore ça s'est continué, mais c'est vraiment le temps par excellence des confessions de foi que le temps des réformateurs, puisque jusqu'à la confession de Westminster, le XVIIe. Et non seulement l'expression reprise, dans ce sens que je vous explique, de la symbolique au sens des symboles confession de foi, non seulement cette expression convient parce qu'il y a eu rédaction de nombreuses confessions de foi, que ça a été une grosse part de l'activité de ces réformateurs que de rédiger de tels textes, que leurs assemblées ont surtout été réunies pour en produire, etc. Je crois que cela est très approprié parce que la Réforme a eu pour fonction de ramener la théologie dans l'Église. La scolastique, la mise à l'école. Et du coup, il y a eu progressivement de plus en plus une dissociation entre la foi du peuple et puis la théologie pratiquée à l'école entre spécialistes. Et ce qui a caractérisé la Réforme, c'est que les questions théologiques sont redevenues brûlantes pour les simples fidèles. Ils en ont été instruits, il y a eu un effort pédagogique prodigieux, avec traduction en langue vulgaire de la Bible elle-même, et puis rédaction des ouvrages théologiques, non plus en latin, toujours, bien sûr aussi en latin, mais aussi en allemand, en français. Et donc, les fidèles instruits de ces questions théologiques, elles sont passionnantes pour elles. La confession de la foi devenant vraiment une affaire d'église, et la théologie étroitement liée à cette confession de la foi, avec une concentration sur des questions très proches des intérêts existentiels, pourrait-on dire, des fidèles, la question du salut, de la justification, un peu plus tard, la sanctification, étant les questions privilégiées, vraiment au centre de la réflexion théologique. Ça me semble caractéristique de l'époque de la Réforme et de ses suites, et cela me paraît justifier le choix du titre « Âge de la symbolique » de cette période. Pour celle qui suit, c'est bien sûr que je rajoute qu'il y a une continuité de l'héritage de la Réforme pour ceux qui demeurent fidèles, mais quant à ce qui se produit de nouveau, eh bien, c'est l'avènement de la critique. Dans la période qui suit, avec des précurseurs au XVIIe siècle, c'est au XVIIIe que la mentalité critique devient prédominante, quasiment hégémonique, et qu'au XIXe siècle, elle conquiert pratiquement toute la chrétienté à part l'Église catholique romaine et les orthodoxes orientaux qui sont hors du débat à cette époque. Le XXe siècle étant le siècle où l'Église romaine bascule à son tour de ce côté critique. Les théologies qui acceptent la pratique habituelle de la critique s'appellent, du côté protestant libéral, du côté catholique moderniste, ce qui est peut-être une expression plus exacte pour les caractériser. Cet âge va vous jusqu'à nous, pratiquement, l'âge de la critique, avec des théologies libérales, néolibérales, libérales, mais libérales quand même, vous avez une palette, il faudra que je vous donne quelques points de repère à la suite de notre travail. Mais je pense qu'on peut discerner, au moins les débuts d'un autre âge encore. Il y a un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui peu satisfaits des fruits du traitement critique, qui se veulent post-critiques, qui cherchent, une fois le travail critique fait, à dégager le sens que la critique n'a pas réussi à retrouver. Elle a fait un travail essentiellement négatif. Une formule imagée caractéristique du philosophe protestant Paul Ricoeur, est un homme de cet âge, de l'herméneutique. Par-delà le désert critique, nous voulons être interpellés. La critique, une traversée du désert. Impossible d'y échapper. Nous sommes modernes, nous ne pouvons pas faire autrement, ces gens de l'âge post-critique. Donc il ne s'agit surtout pas de revenir en arrière. Mais, par-delà l'activité critique, qui dessèche, qui fragmente, qui laisse finalement insatisfait, qui ne rejoint pas le sens, une autre démarche pour essayer de retrouver le sens malgré tout. Et alors le mot privilégié, c'est celui d'herméneutique, c'est-à-dire traditionnellement la science de l'interprétation. Une théologie qui se développe, qui me semble caractéristique d'un âge post-critique, donc des théologies qui pensent qu'on peut, au-delà du littéral, tombe sous le coup de la critique, s'approprier la richesse de sens de la Bible par une démarche interprétative. Le mot d'interprétation est employé surtout parce que on désespère d'une réception littérale de l'enseignement scripturaire. Les fondamentalistes, donc, quand on emploie le langage de ceux que j'évoque, croit qu'on peut prendre littéralement la Bible. Il est dit Jésus ressuscité, bon, il croit que le tombeau était vide, que le cadavre de Jésus s'est redressé, des caractères nouveaux. Ils prennent tout ça littéralement. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous avons été instruits par la critique, que nous avons un regard qui rend impossible pour nous, en moderne, sans malhonnêteté intellectuelle, de croire. Mais nous ne pouvons pas abandonner la résurrection. Il s'agit de faire une démarche d'interprétation pour réussir à retrouver derrière le littéral qui est lié à une vision du monde d'un autre âge, un autre monde que nous ne pouvons pas reprendre, trouver derrière cette expression qui littéralement parle d'un cadavre qui revient à la vie dans le tombeau, le sens. Le sens qui voulait déjà se passer par ce moyen maladroit à l'époque, le moyen convenait au premier siècle. Il faut le découvrir pour nous par une démarche, de sorte indirecte, qui dépasse le littéral. Voilà ce que j'évoque en disant que le mot herméneutique semble le mot clé pour plusieurs, avec développement d'un type de théologie post-critique. Alors, ce n'est qu'un début, on pourra peut-être, après quelques temps, dire, en fait, ce n'était pas un nouvel âge, c'était une simple variante de l'âge critique. On pourra très bien dire ça, peut-être. Mais, pour vous présenter les choses, je me suis dit, j'ai quand même distingué ça comme un sixième âge qui pourrait se développer. Oui, madame, je crois que vous pouvez intervenir. Non? Ah non, alors j'ai cru. Non. Alors, monsieur Rimbaud, oui.
Suite à votre question, est-ce que vous voyez un espoir de notre point de vue? Est-ce que vous voyez un espoir pour les postures. L'espoir, en fait, il est là.
Faut jamais perdre l'espoir. Il y a des critiques qui, déçus de la critique, viennent à des positions évangéliques, qui se rendent compte que c'était la démarche critique même, telle qu'ils l'ont pratiquée, peut-être pas dans son idée simple, mais telle qu'ils l'ont pratiquée, qui est un fourvoiement, et qu'il faut avoir l'humilité de revenir sur le trajet réformateur. Il y en a, effectivement, et des professeurs d'université, à qui un tel faculté de théologie, à qui tel chemin paraît le bon, qui le font. Vous avez peut-être vu le nom de Tasker, maintenant, bon, je crois qu'il est mort, mais il est professeur à l'Université de Londres, et libéral, critique, est devenu évangélique. Parce qu'il est responsable de toute une série des commentaires finés sur le Nouveau Testament. À la faculté de Gordon, il y a un professeur, Gordon Conwell, aux États-Unis, le professeur Brunel, qui a été libéral pendant tout un temps, qui est devenu évangélique. Donc, déjà, il y a, au plan individuel, un tel espoir. Je continue de répondre à la question de M. Renborg, et puis je laisserai exprimer les autres questions. En ce qui concerne le mouvement dans son ensemble, mon espoir est beaucoup plus limité. À coup sûr, certains post-critiques reviennent plus près de positions que nous jugerons saines et bibliques. Ils sont moins extrêmes dans leur négation. Et un rameau particulier du post-critique, c'est pas tellement herméneutique, mais si, quand même. L'approche qu'on dit, approche au sens anglais, canonique, d'un professeur à l'université de Yale, aux États-Unis, Nouvelle-Angleterre, qui s'appelle Childs. Révard Childs. Qui a écrit un livre pour dire non, vraiment, il n'y a plus rien, les églises se vident, c'est tellement pauvre la théologie de type critique, et même les efforts pour la rénover ont, chez les théologiens comme Barthes, n'ont rien donné. Il faut honorer à nouveau le canon comme le vrai contexte de l'interprétation, le premier grand contexte de l'interprétation. Et il a donc fondé une école canonique. Alors, c'est pas si mal. Restaurer le canon, ça lui donner une certaine autorité. Malheureusement, il n'est pas devenu évangélique ou redevenu évangélique, parce qu'il y a eu une empreinte évangélique sur son adolescence. Donc, c'est positif sans être entièrement satisfaisant. Et par rapport à de tels mouvements de recentrage, on peut toujours poser deux jugements de valeur aux antipodes l'un de l'autre. On peut toujours dire, ah bien, ça va, ils reconnaissent maintenant un plus grand nombre de vérités, ils reviennent très près du centre, de l'axe, c'est réjouissant. On peut le dire, je crois. Mais on peut aussi dire, puisqu'il nous donne mal, profond n'est pas guéri, que le vice de construction est toujours là, en un sens, cette modération, ce recentrage masque le mal qu'il faudrait guérir, et c'est d'autant plus dangereux. On peut aussi toujours raisonner de cette façon. Voilà un élément de réponse à votre question. Voilà. Oui, alors nous aurons l'occasion, vous allez le voir dans la deuxième. Disons, c'est la troisième. C'est le troisième type que j'étudierais. Dans le développement historique, c'est le type libéral moderniste. Donc nous allons, je pense, y revenir. Je dirais simplement, pour répondre quand même quelque chose dès maintenant à votre question, que le mot lui-même a été employé d'abord, je crois, à Genève au XVIIIe siècle, pour désigner des gens qui s'écartaient de l'orthodoxie, de la doctrine reçue et normative, et qui disaient on doit être libre de tenir toutes les opinions, finalement, dans l'Église, en tout cas, une certaine gamme d'opinions. Il ne faut pas être tenu de souscrire à une confession de foi et ensuite de la respecter dans la prédication et dans l'enseignement. Il disait, il faut être libéral, liberté, comme position doctrinale qu'on enseigne. C'est de là qu'est venu l'usage de ce terme, qui est un terme piégé puisqu'il veut dire tant de choses diverses. Il peut avoir un sens politique, il peut avoir un sens simplement psychologique, libéral et généreux, etc. Donc voilà le sens à la naissance de cet usage. Oui. Alors ça dépend vraiment des divers théologiens qui font cette démarche post-critique, certains d'ailleurs diront même critique, et ça dépend en particulier des philosophies auxquelles ils raccrochent leur wagon. Selon la philosophie qu'ils adoptent, ils diront voilà le sens qu'on peut recouvrer de la résurrection. Je vais me borner à une seule illustration, même si l'auteur n'insiste pas tellement sur le mot d'herméneutique. Je crois qu'il appartiendrait à cette catégorie, c'est Moltmann, que je prendrai comme exemple, un homme relativement modéré. Je crois qu'il est clair qu'il ne croit pas que le cadavre de Jésus a subi un changement et que le tombeau a été vide. Il est assez ambigu par moment, mais je crois que j'ai suffisamment de citations pour dire non, il ne le croit pas. Là, il accepte le verdict d'une critique négative. Mais pour lui, la résurrection, c'est une force qui agit dans l'histoire, une force qui porte vers l'avenir, vers le royaume de Dieu, dans la lutte contre l'injustice. C'est quelque chose d'historique, dit-il. C'est une force dans l'histoire. Le crucifié et le ressuscité, cela veut dire que Dieu s'identifie avec les opprimés de la terre, et que cette identification de Dieu, qui est l'avenir avec les opprimés de la terre, imprime à l'histoire un mouvement de progrès vers la libération. Voilà le sens de la résurrection, et du fait que c'est le crucifié et le ressuscité qui n'agissent pas pour cette identité. Le crucifié s'identifie à la figure, en quelque sorte, qui récapitule toutes les oppressions, et affirmer, je crois, la résurrection, c'est affirmer la conviction que l'oppression n'a pas le dernier mot, que Dieu est du côté de ses opprimés, et que l'histoire va dans le sens de la libération. En outre, on peut dire que croire cela, c'est s'engager soi-même dans la même direction, dans le même combat de libération. Voilà, c'est simplifié, c'est l'ossature en quelque sorte. Souvent, il y a un discours, une rhétorique très, très fleuri, très habile, qui masque un peu ses contours. Je crois que c'est l'essentiel de ce qui reste comme sens attribué à la résurrection.
Qu'est-ce que l'empêche de croire que c'est un fait historique?
Alors, ce qui empêche, à leurs yeux, d'abord leur langage, c'est la certitude de la raison critique. C'est l'usage critique de la raison, sans quoi on n'est pas un homme moderne. On ne peut pas penser autrement. On pouvait admettre une résurrection, comme il est dit littéralement dans la Bible, quand on avait une autre vision du monde que celle du scientifique moderne, mais pour nous, ce n'est plus possible. Voilà, c'est dans leur langage, dans mon analyse, dans notre compréhension évangélique, ce sont les présupposés de leur usage de la critique et de la raison. C'est une certaine incrédulité fixée à titre de présupposé quant au surnaturel, quant à la manière dont les phénomènes se produisent dans le monde. C'est un blocage d'incrédulité, en fait. Mais ils ne le voient pas comme ça, et ils réalisent très fort si on le dit comme ça. En général, cette façon d'analyser la possibilité est très mal ressentie.
Je
Concernant cette incrédulité, moi je verrais plutôt le poids de la science, plutôt qu'une espèce de vanité mondaine d'un discours moderne. Mais Karl Barth, ce que je voulais vous demander, c'est vous qui Karl Barth, je vous le dis dans les libéraux, le dialectique. Mais est-ce que c'est pas un peu difficile de classer les gens dans une pensée ou une autre? Il va y avoir des gens libéraux sur certains points et fondamentalistes sur d'autres.
Sans doute. De toute façon, nous ne sommes pas tous parfaitement cohérents. Et donc, il peut y avoir des assemblages bizarres par moment. Hein. Je ne crois pas exclure cette possibilité en soi. Je réponds aux deux éléments de votre intervention. Le rôle de la science. Je crois qu'effectivement, c'est au nom de la science, je dis raison critique, on pourrait dire aussi raison scientifique, que très souvent, le miracle dans sa littéralité telle que décrit est exclu. Mais la réplique que vous êtes sûr de donner, c'est que la science est alors invoquée à tort. On est le droit que la science ne peut en aucune façon exclure le miracle, que ce n'est pas hors du champ de sa compétence, et que c'est une idolâtrie de la science que la démarche qui prétend que la science exclut. Cela dit, il est sûr que les habitudes de pensée des scientifiques dans leur travail, surtout, je dirais, du travail scientifique un peu plus ancien que celui qui est à la pointe aujourd'hui, que ces habitudes du travail scientifique vont incliner à cette idolâtrie, pour employer le terme le plus fort, vont constituer une tentation de dire qu'il n'y a rien d'autre que ce qui se mesure, ce qui peut être soumis à vérification expérimentale, dans des conditions où les protocoles définis de manière facile, etc. C'est une tentation puisque toute l'activité mentale s'oriente de cette façon habituellement. Il est facile de faire le pas fatal et de dire il n'y a que ça. C'est là il est écrit, ce qui devient une idolâtrie. Heureusement, il y a des savants et des savants plus haut niveau qui ne font pas ce pas, ils peuvent être cités en quelque sorte comme témoins. Et puis il y a le fait que des savants de plus en plus nombreux, insatisfaits de leur propre démarche, font des pas qui ne sont pas vers la foi chrétienne, mais vers un peu n'importe quoi, l'hypnose de Princeton et autres. Donc, je dirais que cette idolâtrie de la science pour elle-même a perdu de son emprise les dernières années. Et il y a aussi des hommes très remarquables qui, sans adhérer à la foi chrétienne, ont perçu le rôle des présupposés, le fait que la science ne peut pas s'expliquer, se fonder elle-même. C'est tout spécialement le cas de Michael Polanyi, qui donne vraiment très haut crédit dans les cercles scientifiques. J'ai lu qu'on le considérait comme sur les rails pour un Nobel en physique. Et il a abandonné ses travaux proprement scientifiques pour faire de la philosophie des sciences. Persuadé que c'était devenu une tâche très urgente. Et en philosophie des sciences, il a mis en valeur le rôle des présupposés à l'origine de toutes les démarches scientifiques et de l'établissement de tous les ensembles de critères pour les mettre en œuvre. Alors, cela à propos de la part de la science que vous avez évoquée. Ensuite, Karl Barth. Vous citez Karl Barth, nous en reparlerons. Karl Barth s'est dressé en critique du libéralisme, en adversaire du libéralisme, mais il n'a pas rompu de la méthode, quant au point de départ dans l'écriture, entièrement avec le libéralisme de ses débuts, de sa formation. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que son œuvre finalement ressemble à un échec historiquement. Qu'après 20 ans, 30 ans maximum de redressement, de choc parti antilibéral, c'est de nouveau le libéralisme qui règne. On considère que l'ère partielle est terminée. Alors nous en reparlons, mais vous avez raison, il va s'adresser à un adversaire du libéralisme, donc il est tout à fait paradoxal de le classer,
théologie libérale moderniste,
mais il me semble qu'il a été mu par la réaction sans réviser suffisamment les bases même. Ok, nous en reparlerons.
Tu vas
pas?
Je pense qu'on a plutôt l'intrigue des sciences, comme je venais, deux sciences qui pourraient aussi faire toutes les grandes rondes, c'est l'astronomie et la physique. L'incroyable par l'astronomie, c'est la façon vraiment plus grande. Et là, maintenant, nous sommes des astronomes, l'astronomie, tout ce qu'on devient presque un poil. Et dans un plus grand petit, également, en rencontrant vraiment des gens qui deviennent très bien.
Oui, merci. Merci pour ces indications de Fred. Oui, M. Traknik.
Je pensais qu'il y avait un commentaire pour penser depuis quelques 5 ou 6 ans. J'ai un ami pasteur baptiste, je ne sais pas si quelque chose déjà, mais chez nous là, et puis on parlait. Moi, je parlais, disons, que nous, les évangéliques et les catholiques, avaient un seul héritage enraciné dans le christianisme. Et puis, à ce moment-là, il était devenu un peu poléreux, disons, et puis, il a dit que non, dès l'église primitive, il y avait comme deux piliers ou deux colonnes. L'un pilier, disons, c'était comme pour l'église temporelle ou soi-disant l'église de Christ, mais l'autre c'était le pilier des vrais croyants. Et il fait son rapport pour ceux les vrais croyants, il n'a aucun rapport, aucun lien avec l'autre pilier là, y compris l'église catholique et les autres. Et puis, mais je vois, j'entends. Notre point de repère, notre référence, c'est toujours concentré ou on se centre, disons, dedans le monde catholique et vers sa apostolique et tout ce qui a eu lieu pendant le Moyen-Âge et tout ça. Là, comment le voyez-vous?
Oui, la question est très pertinente. Il y a effectivement un choix à faire. Je ne m'associe pas à ces orientations qu'on trouve chez les évangéliques, qui en quelque sorte se désolidarisent de pratiquement toute cette histoire dont nous allons encore parler, disant notre continuité à nous, elle se trouve du côté d'humbles croyants qui n'ont pas laissé leur nom dans l'histoire, qui étaient attachés à leur Bible. De loin en loin, on a quelques petits signes de leur existence, mais en fait, c'est là notre seule continuité. Je ne pense pas que ce soit un jugement historique correct, qui soit pénétrant. Je crois qu'il est sans susciter par les traits idéologiques de notre christianisme évangélique moderne. Nous sommes anticatholiques, disons, entre guillemets, donc nous allons dire ce devenir de l'Église catholique ne nous intéresse pas, ce n'est pas du tout notre ascendance, notre généalogie à nous. Je crois que le jugement est historiquement faux, que nous dépendons réellement de l'œuvre de ces pères de l'Église, que le mouvement baptiste en particulier est très clairement dérivé de la branche réformée, issue de la réforme, qui elle-même est issue du devenir de ce qui était l'Église catholique latine auparavant, avec une influence majeure de saint Augustin, et qu'essayer de retrouver notre filiation simplement par les Vaudois du Piémont, les Bogomiles ou je ne sais, c'est en fait tomber dans l'illusion. Il y a eu un livre qui a essayé de défendre systématiquement la thèse de cette continuité, en quelque sorte masquée des petits groupes. C'est le livre de Broadbent, le pèlerinage douloureux, je crois, de l'Église à travers les siècles. De l'Église oubliée ou... Et je pense que ce livre est mal fondé historiquement. Franchement. Et que ce à quoi j'arrive, comme conclusion, il majore l'importance de petits groupes dont on ne sait pas grand-chose. Dans bien des cas, il travestis en évangéliques, des gens qui étaient plutôt du type des sectes, qui aujourd'hui feraient l'objet d'une condamnation très très virulente des mêmes évangéliques, s'ils les voyaient aujourd'hui. Parfois que les cathares étaient nommés dans cette espèce de généalogie, mais les cathares, ce sont plutôt des gnostiques. Nous allons en reparler.
Ils étaient dualistes.
Oui, les cathares étaient dualistes. Ils correspondent à ces faux docteurs au sujet desquels Paul avertit dans la première à Timothée, ces faux docteurs qui proscrivent le mariage, etc., par exemple. On croit beaucoup plus important de leur théologie. Mais par volonté de se trouver des ancêtres spirituels, ils ne seraient pas du côté catholique, mais un homme comme Claude Bent, qui je crois appartenait aux Assemblées de Fenard, je crois, a cherché à couvrir de couleurs évangéliques des gens qui en fait n'étaient pas évangéliques. Donc, votre question vraiment est pertinente. Il y a des gens qui ont plaidé, un peu comme votre ami Jean-Baptiste. Je ne crois pas qu'il y ait raison, historiquement. Personnellement, je reconnais ma dette à l'égard d'hommes, donc pourtant, je dis que je faisais de graves erreurs théologiques ici et là. Cela dit, je veux ajouter que nous devons aussi nous défier de la continuité institutionnelle. L'Église catholique au Moyen-Âge, ce n'est pas l'Église catholique au début du XXe siècle. Au terme d'une évolution qui est encore accentuée bien des traits. Simplement, si on veut, comme ça en passant, Thomas d'Aquin s'opposait à au dogme de l'Immaculée Conception. Il a combattu le dogme, à l'époque c'était pas un dogme, précisément, c'était une opinion, et il a bien vu que ça ne tenait pas. Donc, Saint Thomas d'Aquin a lutté contre l'idée que Marie aurait été conçue sans péché, aucun par ses parents. Quand elle est purifiée de la table du péché originel dès sa conception. Juste cela pour dire que l'Église catholique du Moyen-Âge, c'est quand même pas l'Église de Louis XII. C'est à peu près l'heure de terminer notre chambre, mais si vous avez des. Alors, là, c'est aussi une question intéressante. Le mot de fondamentaliste, fondamentalisme, c'est un mot piège. Il est chargé, je crois, de caricatures pour beaucoup de gens. Et tout dépend sur notre part. Dans l'usage qu'on fait, certains, et en particulier, je dirais, le critique principal, celui qui a écrit le livre, le mieux informé, le plus développé contre les fondamentalistes, à savoir James Barr d'Oxford, dans son livre Fundamentalism, eh bien, nous sommes fondamentalistes. Pas loin de nous. Ce sont nos amis, les théologiens des GBU britanniques en particulier, quelqu'un comme James Packer, comme Kenneth Kitchen, qui le prend à partie, pas le moindre doute. Dans le langage de James Barr, les fondamentalistes qui l'attaquent, ce sont les évangéliques. Il ne les connaît que partiellement, il y a des pans entiers qu'il ignore, etc., mais incontestablement, le mot qu'il emploie pour nous, ce n'est pas douteux. Bon, d'autre part, il y a quelques années, dans la revue Études théologiques et religieuses, que publie la faculté de théologie protestante de Montpellier, il y a eu un article qui a été publié par deux professeurs, celui d'Ancien Testament, Daniel Lys, celui de Nouveau Testament, Michel Boutier, des personnalités très connues, et ils ont défini le mot fondamentaliste en 4 phrases. Eh bien, il n'y a pas une seule des expressions utilisées pour définir le fondamentalisme dans ces 4 lignes que je puisse reprendre à mon compte. Il est défini de telle sorte qu'il peut dire non, c'est pas. En tout cas, c'est pas ça ma théorie, c'est pas ça ma théorie. Vous voyez, voilà deux faits qui me semblent illustrer le terme est aussi employé par des gens représentatifs pour nous, raconter simplement. Et pour James Barr, il est clair que le point décisif, l'incarné est l'ancien. Il a raison là-dessus. Le point décisif, c'est l'affirmation de l'inhérence de l'écriture, que l'écriture est sans erreur. C'est ça, finalement. Et le lieu où se séparent les critiques comme lui, vraiment, il met toute sa confiance dans la méthode critique, et puis ceux qui l'appellent fondamentaliste. Alors, pratiquons que faire. Je n'emploierai pas le mot fondamentaliste pour me désigner de manière courante, faire de l'évangélique, mais j'assume. Je ne dis pas non plus que je ne suis pas fondamentaliste, et il m'est arrivé plus d'une fois d'être, je dirais, le fondamentaliste de service. Il y a un numéro spécial qui a produit des dominicains, Lumière et Vie, qui se trouve dans la bibliothèque aussi, sur les divers fondamentalismes, puisque maintenant on parle de fondamentalisme, aussi pour les sables, etc. Les divers fondamentalismes, bon, eh bien, j'ai été fondamentaliste de service. C'est celui auquel on a demandé, considérant qu'il était lui, fondamentaliste, de s'exposer, il entendait par là quelle était sa position. Non, tous les autres sont des articles de gens qui ne s'associeraient pas à nos positions et qui sont critiques à divers égards, parfois des points de vue sociologiques, c'est pas sans intérêt. Mais bon, moi je suis fait le spécimen des gens fondamentalistes. Donc voilà, j'ai caché mes secrets. Ce ne ferait pas, peut-être, certains collègues, mais vous voyez, je crois que c'est la façon de faire. C'est quoi? Je trouve que le mot est très court. Il prend un sens beaucoup plus beau que conservateur, autrement on nous mettra comme étiquette. Parce qu'évangélique, on ne nous le laisse pas. On dira les évangéliques conservateurs. Je suis tout à fait d'accord, peut-être conservateur de tempérament, je ne dirai pas. Je suis d'accord pour conserver ce qui est à conserver. Mais je trouve déplorable que ce soit l'étiquette, que le sens de moteur du bon combat soit identifié à une attitude conservatrice. Non, ce n'est pas ça. Alors que le souci du fondement, de l'unique fondement qu'on peut tous poser, ah oui, c'est bien le souci. Donc le terme, en quelque sorte, est plus approprié. Voilà, je crois que, bon, et puis il sent quand même sage de conclure maintenant, puisque le repas schéma qui couvre les 19 siècles que nous considérons, que j'ai schématisé le développement en le divisant en 6 âges que vous avez indiqué dans le dernier paragraphe de ma partie 31. Je ne vais pas maintenant reprendre toute l'histoire simplement en la racontant siècle après siècle. J'ai choisi de vous présenter successivement, et du point de vue historique, les 3 grands types de théologie qui se dégagent, me semble-t-il, quand on sacrifie les choses, bien sûr, quand on sacrifie quelques nuances et qu'on ne traite pas les types intermédiaires ou mixtes de manière trop attentive. 3 grands types, le type catholique, entre guillemets, parce qu'il ne s'agira pas forcément seulement de l'Église romaine, mais surtout de l'Église romaine, à cause de notre situation de francophone européen. Le type évangélique, on pourrait dire le type marqué par la réforme, et le type libéral ou moderniste, à des degrés divers, l'ordre de présentation étant l'ordre d'émergence et de constitution dans l'histoire. Même si le type catholique subsiste jusqu'à nos jours, donc dans le survol que je vais faire à son propos, nous irons jusqu'au XXe siècle, on peut dire qu'il s'est constitué le premier. Et que le type libéral moderniste s'est constitué le dernier, en rapport étroit avec l'avènement de l'humanisme, avec le siècle des Lumières, le remplacement d'une raison dogmatique par une raison critique, en notre Europe occidentale particulièrement. Donc, un ordre, grosso modo au moins, historique pour la succession de ces trois grands types. Et puis, alors, dans l'étude de chacun, d'abord, une histoire selon le temps, devenir du type considéré, et puis, un élément ensuite, deuxième partie chaque fois, qui essaiera de souligner les traits caractéristiques, de faire remarquer aussi quelques tensions internes, quelques difficultés que les théologiens qui ressortissent au type considéré essaient de résoudre, sont à gérer au moins, sans que je m'astreigne à une critique systématique de ces divers types. Je vais la suggérer plutôt en indiquant les tensions internes principales à mes yeux, et vous pourrez d'ailleurs ajouter, mais je ne vais pas essayer chaque fois de vous livrer une critique en règle des thèses affirmées d'abord par les catholiques, puis par les évangéliques. Je pense que j'en aurais moins à dire, bien sûr, puisque j'en suis, et vous parlez libéraux modernistes, finalement. Il y aura une critique implicite dans la manière même de présenter. C'est toujours le cas. Une évaluation, rien n'est jamais neutre. Mais je ne vais pas donc m'astreindre à vous dire, voilà, à mes yeux, ce qui ne va pas, ce que l'on doit réfuter. Non, vous le découvrirez vous-même, vous le comprendrez spontanément. Il y aura quelques réflexions finales, selon le temps qui nous restera, mais elles ne seront pas non plus très développées. Enfin, je ne pense pas qu'elles doivent l'être. Je ne sais pas exactement à quel rythme nous allons progresser, voire aujourd'hui. Il faut en tout cas que nous ayons conclu sur le type catholique et son évolution ce matin. Mais j'espère que nous aborderons au moins le cycle suivant, pour que, avec la troisième séance qui nous restera, celle du vendredi après-midi, nous réussissions effectivement à atteindre le terme de mon schéma. Alors, la genèse du type catholique et son évolution. Les réformateurs ont cru pouvoir s'appuyer, et avec une grande sincérité, une grande érudition aussi, sur les pères de l'Église, contre les doctrines de l'Église romaine qu'ils combattaient. Et Calvin, en particulier, assurait beaucoup de prestige parmi ses collègues, par la maîtrise qu'il avait des écrits des pères. Saint-Augustin, mais d'autres aussi. Je vous avoue que je me distance quelque peu de cette assurance de mes pères dans la foi que sont les réformateurs. Je crois malgré tout devoir dire que les pères de l'Église ont, pour le plus gros, orienté les choses dans le sens du catholicisme ultérieur. Que l'on voit s'élaborer le type catholique dès les premiers siècles de l'Église. Bien sûr, ce n'est pas, avec tous les développements, je l'ai d'ailleurs rappelé hier, me semble-t-il, à un moment donné de notre conversation, ce n'est pas avec tous les développements du catholicisme moderne. Bien sûr, les choses restent floues sur bien des points, et dans la diversité de l'âge patristique, on peut trouver ici et là des témoignages qui vont plutôt dans le sens des proclamations de la réforme. Reste que globalement, je pense que le type catholique de christianisme, c'est bien déjà au temps des pères de l'Église qu'on le voit se constituer peu à peu. Ces contours m'en paraissent discernables. Je l'avoue. C'est pourquoi, sous le petit A, je dis élaboration par les pères. Je vais mettre l'accent dans les trois exposés, je vais faire mon principe, non pas sur telle ou telle doctrine particulière, mais plutôt sur le type théologique et la manière de faire de la théologie. Puisque c'est en rapport avec les prolégomènes que je fais le survol de l'histoire de la théologie. Alors que dire à ce sujet des générations qui ont immédiatement suivi le temps des apôtres? On distingue, comme je vous l'ai déjà dit, le temps des pères apostoliques, ceux qui avaient eu encore un contact personnel avec les apôtres, qui restaient très proches dans le temps, qui avaient au moins connu des témoins oculaires et auriculaires du ministère de Jean, de Paul. Et puis ensuite le temps des pères apologètes, qui eux appartiennent déjà à une autre génération. Que dire donc de ces générations quant à l'élaboration théologique? D'abord que les pères apostoliques n'ont pas fait de théologie au sens technique du terme, en approfondissant les questions, en cherchant à définir. Les pères apostoliques étaient des pasteurs, œuvrant dans un temps de persécution, plus ou moins intense, c'était très divers selon les lieux dans l'Empire. Pendant les premiers siècles, il faut bien savoir qu'il n'y a eu que quelques vagues de persécutions généralisées et intenses. Il y avait de longues périodes de répit, très diversifiées. Bon. Mais les premières décennies qui ont suivi la mort du dernier apôtre, probablement Jean, ont été des décennies quand même peu faciles pour l'Église, encore numériquement très, très faible, méprisé par la société ambiante, à la fois haï des juifs, séparation qui était intervenue, qui a mis un certain temps à se produire, et des païens cultivés, je dirais qu'il s'agissait là d'une superstition assez grossière, déplaisait, et les pères apostoliques, comme on les appelle, donc on fait œuvre de pasteur dans des situations difficiles, sans raffiner, sans aller très loin dans l'étude des problèmes théologiques. Leur Bible, c'est d'abord l'Ancien Testament. Et oui, la seule Bible complète, disons, c'était la Bible que les Juifs avaient léguée dans les églises. Quant au Nouveau Testament, on ne possédait pas en entier, mais telle ou telle manuscrit, telle ou telle copie d'un évangile, de telle épître de l'apôtre Paul. Il y avait encore des souvenirs de l'enseignement oral des apôtres, et puis des écrits pour représenter une partie du Nouveau Testament. Il est, me semble-t-il, très clair par les allusions que font l'Église, les quelques citations formelles qu'on trouve chez eux, ces pères apostoliques, qui sont assez peu nombreux, hein, ceux dont on a des écrits qui nous restent. Il est clair que pour eux, l'Ancien Testament est entièrement d'autorité, que c'est la parole de Dieu, et de même, l'enseignement des apôtres. Ce qu'ils ont reçu, c'est l'autorité à laquelle ils se réfèrent. Mais par rapport à d'autres temps de l'Église, du fait qu'ils n'ont pas une Bible tout entière, que le Nouveau Testament, ils n'en ont pas tous les livres que nous avons, ils ne se réfèrent pas au canon, comme nous avons l'habitude de dire, à la manière des réformateurs, en disant que l'Écriture sainte, c'est l'autorité souveraine en matière de doctrine. Ils n'ont pas entre les mains une écriture sainte comme ça. Effectivement, l'autorité, c'est l'Ancien Testament, puis il y a les paroles de Jésus qui ont été transmises, les paroles des enseignements des apôtres, avec les écrits où cet enseignement se trouve, pour eux, qu'ils ont entre les mains, c'est l'autorité, ils n'en doutent pas. Et ils ne prennent pas eux-mêmes le titre d'apôtre, ils disent bien, Ils font référence à Paul, c'est au-dessus de nous. Je n'ose pas m'adresser à vous, dit l'un d'eux, comme un apôtre, comme Paul. Ils font la différence. Mais c'est plutôt l'autorité apostolique qui est évoquée que l'autorité de la Bible comme un livre complet. Parce qu'ils n'ont pas encore la Bible comme un livre complet. Ils ont la Bible hébraïque traduite en grec. Et puis ils ont des portions de la tradition apostolique, du dépôt apostolique. Il n'y a pas d'autre autorité, me semble-t-il, qui se conjugue à la fois pour eux, à cet ensemble du dépôt de la foi. Mais s'il y a un souvenir oral qui est bien attesté, que les témoins du temps des apôtres leur livrent, bien, ils y croient aussi, ils le retiennent également. C'est comme ça qu'ils réalisent. Lorsqu'il parle du canon, il s'agit plutôt de la règle de foi au sens le plus abstrait. La doctrine apostolique en tant que règle, car le mot canon, en grec, veut dire la règle. Est-ce qu'on va émerger un type théologique qui se dessiner quand même les contours d'une doctrine globale, étant donné cette base que je viens d'évoquer, de leur foi. On voit certaines modifications, au moins quant aux accents, par rapport au Nouveau Testament. En gros, c'est le christianisme du Nouveau Testament que nous connaissons, mais il y a un glissement vers le légalisme qui est très, très net. Et entre autres dans la Didaquée, qui a été citée tout à l'heure. On pense d'ailleurs que la Didaquée a pu incorporer un document juif, a pu retravailler pour une portion un traité des deux voies, des deux façons de vivre, des deux voies qui auraient été d'origine juive. La date de la Didaquée n'est pas tout à fait certaine. Il y a des éditeurs, un éditeur scientifique important, Jean-Pierre Audet, qui a été jusqu'à la dater de 60 à Jésus-Christ, c'est-à-dire du temps apostolique même, bien avant d'abord les derniers apôtres. Ce qu'on fait un témoin d'un temps extrêmement précoce dans l'histoire de l'Église. Mais Audet n'est pas le représentant de l'opinion moyenne. On peut hésiter entre les années 90, la fin des années 90, ou les années 100-110 de notre ère pour la date de la Didaquée. Il contient donc divers éléments. Oui, madame, je suis.
Question. Comment est-ce que...
Je vais l'écrire au tableau. C'est le mot grec qui signifie simplement enseignement. Mm-hmm. Oui. Marquez, vous pourriez écrire cache, si ça vous plaisait, parce que pour le qui grec, on peut aussi utiliser la transcription kh en français. Ça veut dire simplement l'enseignement, parce que le titre c'est l'enseignement des apôtres. C'est un texte qui a été redécouvert dans la deuxième partie du 19e siècle, qui a été inconnu pendant une grande partie de l'histoire de l'Église.
Et où on en a la
lettre. Alors là, je vous avoue que je ne sais plus. Je l'ai certainement lu, mais je ne peux pas vous répondre comme ça, spontanément. Et souvent, c'est en fouillant les fonds de bibliothèques, des manuscrits du Moyen-Âge, etc., tout à coup, un archiviste bibliothécaire fouineur réussit à trouver. Ah, mais ce texte, moi, je ne connaissais pas.
C'est pas dans des monastères.
Parfois, c'est en trouvant des fonds de bibliothèque d'un monastère en Orient, quelque part, mais en ce qui concerne la Didaquée, je ne le sais plus, je vous l'avoue. Ce document, donc, est écrit en grec, mais il y a une saveur sémitique assez marquée qui fait penser à l'utilisation au moins de documents de base qui auraient été d'origine juive. Il a été daté parfois, mais maintenant je crois que c'est une opinion que personne ne tient, beaucoup plus tardivement.
vers la fin du deuxième siècle. Certains auteurs, il n'y a pas de date dessus. Certains auteurs l'ont daté beaucoup plus bas. Mais je crois que cette opinion n'est plus bien retenue et que maintenant, l'opinion moyenne situe autour de 100 après Jésus-Christ, début du deuxième siècle ou même peut-être la fin du premier. Et Audet a été jusqu'à une date beaucoup plus haute encore, jusqu'à 60. En admettant quand même qu'il y a pu y avoir des retouches ultérieures, ce qui complique encore le travail de datation. Donc, glissement, un certain légalisme. La doctrine de la justification par la foi, de la liberté chrétienne, non plus sous la loi, mais sous la grâce, semble être corrigible. Ils n'ont plus l'air de comprendre. Leur souci, c'est un souci pastoral, surtout que les gens ne débordent pas trop à gauche et à droite. On reprend les instructions d'éthique. Il y a déjà des éléments dans le Nouveau Testament, même si on est juste des coutumiers. Et le grand révolutionnaire de la prédication polynienne, surtout, bon, semble perdu. Ça fait partie, disons, de la physionomie du type théologique qui s'élabore. Je pense qu'on peut signaler aussi, fait partie de cette génération, une tendance déjà à interpréter assez allégoriquement l'Ancien Testament. C'est lié à la controverse avec les Juifs, une controverse continue, avec les rabbins, et c'est surtout l'épître de Barnabas. C'est le pseudo Barnabas. Le nom de Barnabas, c'est pas le Barnabas du Nouveau Testament, le compagnon de Paul. Donc on dit le pseudo Barnabas, c'est Barnabé. Donc l'épître de Barnabas présente une interprétation allégorique de pas mal de textes et de prophéties de l'Ancien Testament. C'est une évolution qui se dessine. Et ça fait partie donc, de style d'élaboration théologique qui émerge dans ce temps-là. Et puis, troisième point que je mentionne, qui est important, chez certains, pour moi, chez un auteur, il y a un renforcement de l'autorité institutionnelle, une glorification du pouvoir de l'évêque. Bon, il semble que l'évolution n'ait pas été la même dans toutes les régions de l'Empire, dans toutes les églises du bassin méditerranéen, et que pour certaines de ces églises au moins, la structure qu'on a dans le Nouveau Testament, où évêques et anciens, évêques et presbytres sont des titres qui s'appliquent aux mêmes personnes, semble-t-il, cette structure-là est continuée, avec donc deux rangs de ministère, essentiellement, celui d'évêque ancien, évêque presbytre, d'une part, et le diacre, les assistants, ensuite, comme dans les épîtres pastorales, par exemple, ou déjà dans l'adresse de l'épître aux Philippiens, il est question des évêques et des diacres. Dans certaines régions de l'Empire, il semble qu'encore assez avant, dans le deuxième siècle, ce soit cette structure qui est prédominée. Mais, dans les premières années du deuxième siècle, Ignace d'Antioche est le témoin et le promoteur d'une structure triadique qui place l'évêque au-dessus des anciens ou presbytres, c'est le mot qui est devenu prêtre en français ultérieurement. Le mot ancien en grec, c'est presbytéros, c'est-à-dire le plus âgé, plus âgé de deux, c'est comparatif de Dieu, simplement. Alors, on en francise le mot en disant presbytre. Notre consciencieusement
traduire, anciennes.
Mais assez souvent, dans les ouvrages théologiques que vous pouvez consulter, vous trouverez la transcription en français presbytre. C'est ce mot qui, passé par le latin, est devenu le mot prêtre en français.
Les catholiques d'aujourd'hui,
j'en ai entendu en tout cas, et cérémonies officielles même, aiment revenir au mot presbytre, plutôt que d'employer le terme de prêtre. Et souvent, pour parler du collège des prêtres, ils diront le collège presbytéral. C'est un usage de langage qui est assez récent, mais qui représente la conscience que le mot prêtre a des connotations en français qui ne sont évidemment pas celles de presbytéros en grec, et qu'il faut revenir donc au terme de l'original, corriger certaines méprises.
Et pourquoi on dit le même mot alors que les prêtres qui font un sacrifice pour ces gens
plus gagnés dans une... Alors, c'est le problème du glissement même du ministère. Le terme de presbytre est resté puisque c'est celui qui était dans le Nouveau Testament. Mais il a été chargé d'un sens nouveau. Le ministère de l'ancien presbytre a été compris comme un ministère de sacrificature, un ministère sacerdotal, et en latin, les deux termes de presbytre, de part, mais aussi de sacerdoce, prêtre, quelqu'un donc sacerdotal en français, ont été employés couramment. Et le changement de langage, donc de ces catholiques d'aujourd'hui que j'ai entendu, représente un effort pour s'éloigner de la compréhension strictement sacerdotale, pour serrer d'un peu plus près la compréhension néo-testamentaire, sans rompre tout à fait, parce qu'ils ne vont pas le faire, ils ne voudront pas le faire. Mais je pense qu'il est intéressant de noter ces nuances qui s'attachent au terme. Alors, j'en reviens à l'histoire que je vous raconte. Ignace d'Antioche, dans une série de lettres qu'il écrit à diverses églises sur le chemin de son martyr, on appelle à Rome, Ignace d'Antioche atteste et défend avec véhémence un système dans lequel l'évêque est au-dessus des presbytres, des anciens. Vous avez 3 degrés, très nettement hiérarchisés. Et Ignace d'Antioche est un fanatique de l'autorité épiscopale. Il est vraiment persuadé que l'évêque représente Dieu sur la terre. Il le dit carrément. Et cela se lit chez lui, très intéressant, à une compréhension très mystique de l'Église, de l'Eucharistie. Il faut que l'évêque soit là pour l'Eucharistie. Si on se sépare de lui, l'Eucharistie n'est pas valable, en tout cas s'il n'y a pas son aval. Son christianisme est un christianisme d'identification fusionnelle avec le Christ. Il met l'accent sur l'incarnation, la chair du Christ, et notre adhésion à sa chair, formant avec lui un seul corps, une seule vie. Voilà les thèmes qui frappent quand on lit les épîtres d'Ignace d'Antioche, ceux qui préparent un certain catholicisme ultérieur. Ce sont des frères qui seront caractéristiques du type catholique, qui est incarnationniste, qui met l'accent sur l'entrée du divin dans la chair plutôt que sur l'expiation des fautes juridiquement considérées à la croix. C'est un christianisme qui met l'accent sur une identification au divin, entrée dans la chair, passée par la mort, qui nous entraîne dans la résurrection.
tellement frappant, Ecclésias, que certains auteurs, et jusqu'à ce jour, mettent en doute la datation de ces écrits. J'en ai encore parlé il y a relativement peu de temps, il y a eu 2 ans, j'en ai profité de l'occasion, un patristicien de qualité de la faculté de Neuchâtel, sur ordre, c'est un d'entre vous pouvez le connaître, il est justement dans la discussion dans un congrès patristique à Oxford récemment, ça semble tellement déjà pré-catholique, si vous voulez, tellement en résonance avec ce qui est devenu beaucoup plus tard le christianisme type catholique, qu'on se dit c'est pas possible, il est écrit déjà tout ça au début du deuxième siècle. Il y a des gens qui ont des doutes sérieux, mais c'est quand même une minorité parmi les spécialistes, semble-t-il, et en général on dit non, les lettres d'Ignace de la deuxième décennie du deuxième siècle. Et donc, il faut bien penser que, au moins dans son église, d'Antioche, dans ce point-là, et en rapport avec sa personnalité particulière, il y a eu déjà l'émergence d'un type de christianisme qui, plus tard, a fleuri, s'est développé comme le type catholique. Il faut ajouter, me semble-t-il, deux choses, et puis je serai le faire. Il faut ajouter, me semble-t-il, deux choses à propos d'Ignace d'Antioche toujours. Premièrement, il est difficile à interpréter de manière sûre et précise. C'est un prédicateur enflammé. Il n'a que de grandes formules, mais son vocabulaire n'est pas précis du tout. Et vraiment, donc, on ne sait pas toujours très bien ce qu'il veut dire. Jusqu'où va-t-il? Et en ce qui concerne les sacrements, par exemple, on peut lui imputer une conception très lourdement sacramentaliste. Il appelle la Sainte Seine un remède d'immortalité, un pharmacon, c'est une pharmacie, un pharmacon d'immortalité. Alors, je dis, vraiment, c'est une conception quasiment magique de l'Eucharistie. Mais c'est pas ça, c'est pas sûr, avec lui. C'est peut-être simplement une métaphore, simplement, c'est le symbole du pain vivant, et pas plus, peut-être. Il y a une marge de variation quant à l'interprétation possible qui est très considérable à cause du style de d'Ignace. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il faut bien voir quelle est sa motivation quand il met tellement l'accent sur la chair et quand il met tellement l'accent sur l'autorité de l'évêque. C'est qu'il lutte de toutes ses forces contre les gnostiques de son temps. Je crois que Madame Alekhovitch a dû vous parler des gnostiques, si j'ai bien compris la vision tout à l'heure. Donc, vous êtes un peu au courant. Manifestement, c'est à cause de ces faux docteurs qui enseignent un christianisme où la chair de Jésus-Christ n'est plus qu'une apparence, s'évapore, un christianisme en prolongement du faux christianisme des antichrists de la famille de Jean, que Ignace fait flèche de tout voir, d'une part, alors il insiste sur le caractère charnel du nom de Dieu, et d'autre part, il veut tenir son propos. Il s'agit d'éviter que les trevillons réussissent à détourner des brebis. Alors, c'est une réaction aussi fortement circonstancielle qui ouvre la voie à des développements qui finalement seront peut-être pires que ce qui menaçait à ce moment-là, bon, on n'en sait rien. Mais disons, c'est face à l'urgence qu'il y a pas comme il part. Monsieur Leclerc ? Oui, alors Polycarpe est un autre de ces pères catholiques. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Mais Polycarpe est moins original théologiquement. Polycarpe est un témoin aussi, il a écrit moins de textes. Et je ne parle pas de lui spécialement parce qu'il a, je dirais, moins d'originalité. Ce qui est tellement frappant chez Ignace, c'est que c'est d'abord chez lui, ce type catholique, pour nous en tout cas, il semble, c'est de commencer de s'éloigner du Nouveau Testament. Oui, je l'ai mentionné aussi. C'est sur le chemin de Rome qu'il écrit ses lettres. Oui.
Ça
Alors, l'époque des pères apostoliques, je la fais aller à peu près jusqu'à 130, 130, 135, maximum. On datera des épreuves du pseudo-Barnabas vers 130, assez souvent. Là encore, les datations sont des datations toujours contestées. Les textes, en général, ne portent pas leur date dans leur texte. Les réformateurs en général, oui, alors ce n'est pas tellement les Antioches qu'ils ont cité, parce que quand même, on sent une orientation vers la position de piété. Mais les réformateurs, c'est pour ceux qui ont appuyé sur Augustin, sur Théodostome, les gens sont venus quand même plus tard. En fait. Ignace est surprenant parce que chez lui s'annoncent des thèmes qui sont en fait beaucoup plus tardifs dans l'évolution du culte catholique, mais il faut ajouter tout de suite qu'on ne sait pas très bien quelle est la portée de son langage. C'est imprécis et trop fleuri, trop lyrique.
J'ai lu aussi dans Ignace d'Antioche, et j'ai remarqué aussi qu'il y a une glorification du martyr en tant que tel dans ses lettres. On approcherait, disons, bientôt de la prière au saint et au martyr par l'intermédiaire de ses lettres.
Oui, évidemment, là aussi, des circonstances. Oui, c'est pas le martyr, les circonstances peuvent expliquer. Et aussi cette mystique de la fusion avec Jésus-Christ, qui a souffert dans la chair. Cela aussi va dans ce sens, me semble-t-il. Ah oui, il y a plusieurs des prêts que nous associons spontanément au catholicisme et qui apparaissent dès ce moment-là.
Et ces deux termes catholiques apparaissent dans ces écrits-là, dans leurs écrits, et sous quel sens, parce que...
Oui, alors je crois...
Nous voyons ça rétrospectivement, alors oui, ah, oui. C'est un catholique. Et en fait, bon...
Alors, je crois me rappeler, mais malheureusement, là, je ne l'ai pas... tout récemment, donc ma mémoire peut me trahir. C'est justement chez Ignace qu'interviendrait le tout premier usage du mot catholique, et avec le sens géographique qui sera par la suite éclipsé, qui ne reviendra peut-être qu'au temps de la Réforme. La Réforme devra ressurgir en revendiquant alors le terme de catholique aussi pour les églises de la Réforme. Le premier sens à apparaître, c'est le sens géographique universel. Le mot catholique est formé de deux mots grecs. Selon le tout, le kata, la préposition kata, selon, et puis holos, holon, et, ici à l'accusatif, qui est, c'est-à-dire le tout. Vous avez peut-être rencontré le mot holistique, les gens, l'adjectif holistique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils considèrent les choses globalement comme un tout. Alors, kata, holon, c'est formé de deux mots, c'est-à-dire selon le tout. Et le premier sens, alors, on forme à partir de là, donc, des adjectifs, catholicos, catholicos, le premier sens a été semblé géographique. Mais, on a glissé du sens géographique à un sens plutôt doctrinal, dans les siècles qui ont suivi. Le terme catholique soulignait plutôt la détention de la plénitude du dépôt de la foi. L'hérétique est celui qui choisit le mot hérétique, vient d'un terme qui signifie choisir. L'hérétique, c'est celui qui prend un morceau du dépôt de la foi, et puis qui, en le sortant de son contexte, en le gonflant, en déforme les perspectives, le fausse aussi, bien sûr, mais qui d'abord a choisi, prenant une initiative individuelle qui montre son arrogance, sa présomption, qui choisit un élément, alors que la plénitude de la vérité, Apollone, elle est dans l'Église catholique. Premier sens a été géographique, mais ensuite le sens est devenu qualitatif doctrinal. Sans que le sens géographique soit totalement perdu, parce que les deux types d'universalité sont liés. Un hérétique qui surgit tout à coup dans un coin de l'Empire. Alors là, il a des disciples autour de lui, mais finalement, c'est une région, simplement. Il mise sur une vérité parmi l'ensemble des vérités transmises, du coup, il la déforme, et puis, c'est l'homme d'un parti, d'abord en tout cas, c'est régional. Alors, la réplique, c'est de dire, mais considérer la grande Église, c'est partout, c'est même pas partout. C'est un grand argument de ceux qui maintenaient l'orthodoxie face aux hérétiques. Allez voir la grande Église, c'est partout la même foi qu'il y a tout le dépôt apostolique. Ça garde. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a une évolution encore supplémentaire, au sens du mot, chez les catholiques modernes. De l'idée de plénitude du dépôt de foi, on passe à l'idée d'une sorte de plénitude des valeurs humaines. J'ai perçu chez Jacques Maritain, par exemple, ce sens de la catholicité, et c'est une grande séduction. Moi, je l'ai en tout cas tout à fait éprouvé comme tel. L'Église catholique, c'est l'Église à laquelle rien d'humain n'est étranger. Il y a une place pour tout. Toutes les valeurs peuvent être engrangées. L'attitude catholique, c'est, dans les temps modernes, particulièrement cela. Les protestants sont des hommes de la crispation, de l'exclusion. Leurs slogans sont des slogans qui le démontrent bien. L'écriture seule, la foi seule. Ils se réunissent sur des antithèses. Et la capacité, oui, capable avec souplesse de faire place vraiment à tout, toutes les richesses de la communauté humaine. Il y a une place pour l'art, il y a une place pour tout. C'est, je dirais, là, un sens qui dérive du sens de la plénitude doctrinale et qui représente une des grandes séductions de la pensée catholique. Voilà sur ce terme-là, c'est utile en effet de donner quelques explications. Alors, si je me rappelle bien, mais là, je suis conscient quand même, le final d'Antioche qui a employé le premier le terme, mais qui l'a employé dans un sens plutôt géographique, à ce moment-là. Après les pères apostoliques, donc qui sont peu théologiens, comme je l'ai expliqué, surgissent des hommes qu'on va appeler apologètes, qui décriront techniquement, c'est le titre même qu'ils donneront à leur page, des apologies, c'est-à-dire des discours de défense et illustration, destinés au grand public cultivé. Le plus important d'entre eux, qui a fondé une école qui a persisté après lui en Syrie aussi, aussi Antioche, sa base de départ, c'est Justin, qu'on appelle souvent Justin martyr parce qu'il a subi le martyr. C'était un philosophe de profession, un philosophe platonicien, qui était de la tendance que Platon, il y a des siècles avant, avait